Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Sylvain Laptoul avec qui nous allons parler de SDN. Et pour parler avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Chauveur.
Bonjour à tous.
Jean-François Audemars.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Oui, donc moi je travaille chez Orange sur tous les métiers de data center, du réseau et de la sécurité.
Alors, le SDN, qu'est-ce que c'est ?
Alors le SDN, Software Defined Networking, et puis c'est à peu près tout sur ce quoi les gens vont se mettre d'accord autour du SDN, puisque malheureusement il n'y a pas de vraie définition ou de standards associés ou de technologies associées, donc on va plutôt parler de tendances ces dernières années autour de l'automatisation.
Mais automatisation de quoi plus précisément ? Ça fait quoi en fait le SDN et à quoi ça sert ?
Le SDN, en fait, on part d'une problématique qui, je dirais, est montée en puissance dans les années 2000, qui est comment automatiser le réseau. Alors, ça a été toujours très compliqué hein, par rapport à l'évolution de l'automatisation côté stockage et serveur. Et il y a tout un tas de réflexions qui ont eu lieu autour de est-ce qu'il vaut mieux centraliser des fonctions pour mieux programmer ? Est-ce qu'il faut un protocole unique pour les contrôler tous ? Est-ce qu'il faut Linux du réseau pour faciliter la programmation ? Et au final, le mot SDN est vraiment arrivé plutôt sur la fin des années 2000 avec toute la thématique de l'automatisation du réseau avec quelques critères assez communs qui sont essayer d'avoir un contrôle centralisé, essayer de faire une abstraction du réseau et essayer d'ouvrir, je dirais, des API pour que des applications tierces puissent programmer le réseau.
Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je continue à avoir des routeurs répartis à droite à gauche au niveau de mon infrastructure, mais je vais plus me connecter sur chacun des routeurs pour configurer, je sais pas, le routage ou d'autres règles. Je vais tout faire en centrale. C'est quoi le concept ?
Alors, oui, tes équipements réseau, ils sont toujours là parce que à un moment ou un autre, faut faire transiter tes paquets. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle en réseau toute la partie data plane. C'est l'endroit où transite tes paquets. Après, tu as, je dirais, une deuxième grande fonction dans ton réseau qui est plutôt la partie contrôle. C'est ce qui va te dire est-ce que je vais plutôt à gauche ou à droite quand un paquet arrive à un endroit. Et donc, c'est celle-là que surtout aborde SDN en essayant de centraliser ses fonctions de contrôle. Et puis après, ben, comme tu le disais, il y a toute la partie, ce qu'on appelle plutôt management plane, qui est pour configurer les équipements. Et là, malheureusement, en fonction des définitions, management plane, est-ce que ça fait partie du SDN ou pas ? Il y a différents avis sur le sujet.
D'accord, donc trois couches. Il y a data plane, control plane et management plane.
Oui, tout à fait.
Et SDN, c'est uniquement les deux premières, data plane et control plane.
Alors, le data plane, effectivement, il n'est pas trop bougé. Le control plane, si tu prends le modèle ONF, donc l'Open Network Foundation, ils vont te dire que le SDN contrôleur est centralisé et c'est celui qui va donc contrôler les différents équipements qui restent extrêmement distribués. Et donc, on va définir ce qu'on appelle les Southbound Interface, qui sont les interfaces entre les équipements réseau et le SDN contrôleur, les Northbound Interface qui sont, les communications entre des applications tierces qui veulent programmer du réseau et le SDN contrôleur, et le tout permettant, d'avoir quelque chose de plus automatisé, parce que grâce au SDN contrôleur qui est centralisé, on a une vue complète sur le réseau, plutôt que de programmer un à un tous les équipements.
Alors, est-ce que tu peux donner un exemple d'utilisation ?
Dans les exemples d'utilisation, je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez configurer un équipement, c'est extrêmement compliqué parce que vous allez devoir utiliser en général le langage du constructeur. Donc aujourd'hui, les certifications, d'ailleurs côté réseau, sont très souvent autour de tout ce qui est command line interface ou via une application web. Là, j'ai une vue avec SDN, j'ai une vue complète du réseau et surtout j'ai un niveau d'abstraction, ce qui fait que je m'appelle Cisco, Juniper, Nokia ou Ericsson. En fait, au niveau du SDN contrôleur, quel que soit le type d'équipement, comme j'ai modélisé mon réseau, je peux attaquer ces différents équipements de la même manière plutôt qu'à chaque fois réutiliser le langage du constructeur.
Mais comment ça marche? Parce que moi, je me souviens des logiciels de configuration, genre Solsoft Net Partitioner, pour ceux qui ont connu, qui permettait justement d'aller configurer plein d'équipements de marques différentes avec une vision globale. Mais là, c'est les constructeurs qui ont développé la même interface interopérable avec la couche d'abstraction, ou c'est un autre système?
Je dirais que oui, par certains côtés, les constructeurs ont essayé de se mettre d'accord. Hein, donc, on va dire, il y a plusieurs choses où ils ont essayé de se mettre d'accord. Donc, les parties SourceBound Interface. Donc, le protocole le plus connu aujourd'hui, c'est OpenFlow. Donc, OpenFlow, c'est, faut voir ça comme une espèce de grosse table qui va, sous certaines conditions, vous dire si votre paquet va plutôt à gauche, à droite, si je dois le dropper, ou si, comme je sais pas quoi en faire, je le renvoie vers le contrôleur pour prendre une décision. Et donc, les modèles d'abstraction, bon, malheureusement, il y a tout un tas de modèles d'abstraction, mais on pourrait par exemple citer Yang, qui a un modèle d'abstraction, OpenConfig, qui est un peu plus récent. Mais pour ceux qui se souviennent, hein, il y avait déjà eu des tentatives pour essayer de mieux programmer. SNMP, au départ, c'était fait pour programmer des réseaux. Au final, ça a surtout servi au management. On a essayé de trouver autre chose avec surtout la partie contrôle qui est centralisée afin d'avoir une vue complète sur le réseau et essayer de contrôler le réseau d'un point de vue global et non pas équipement par équipement.
Donc Sylvain, tu parlais d'OpenFlow. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
OpenFlow, ça a été le protocole un peu emblématique qui a lancé pas mal de discussions autour de SDN. Donc, il y a plusieurs versions OpenFlow. La version OpenFlow 1.0, 1.1 était donc créée par Nick McKeown en particulier, mais pas que. Puis après, on a créé une fondation qui est l'Open Network Foundation qui a géré l'évolution de OpenFlow à partir donc des versions suivantes. Aujourd'hui, on en est à la version 1.5. C'est un protocole qui, on va décrire sous forme d'une table, je dirais, des règles. Et donc, à chaque fois qu'un paquet va arriver sur un switch, on va lister toutes les règles, on va voir si on en match une, et puis en fonction de ça, on va définir une action associée, ce qui permettra en gros de faire cette partie contrôle, puisqu'on va déterminer dropper à gauche, à droite, ou renvoyer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez efficace, puisqu'au final, OpenFlow décrit ce que doit faire le switch sans expliquer comment il doit l'implémenter, ce qui fait qu'il est très très générique à tous les fournisseurs. Aujourd'hui, à peu près tous les fournisseurs d'équipements réseau sont compatibles OpenFlow. Malheureusement, en fonction des fournisseurs, on est toujours soit sur du OpenFlow 1.0, soit sur du 1.3 qui est un peu plus récent. Les dernières versions sont pas encore très très adoptées.
Alors Sylvain, pour donner un petit peu une vue d'ensemble à nos auditeurs, est-ce que tu peux décrire les différents composants d'une infrastructure SDN et leur interaction?
Alors, de manière macro, on va retrouver nos équipements réseau, qu'ils soient physiques ou logiques, donc bon vieux switch router ou des open vSwitch plus virtuels qui vont composer votre réseau classique et faire transiter vos paquets. Donc ça bouge pas beaucoup par rapport à aujourd'hui. Puis ces équipements-là vont communiquer avec un SDN contrôleur centralisé au travers donc d'un canal de contrôle qui est appelé aussi SourceBound Interface. Et donc là, vous allez retrouver tout un tas de protocoles du type OpenFlow, BGP, XMPP, pour donner quelques exemples.
Alors ça peut être tout ça à la fois, ou c'est un protocole à chaque fois en fonction de l'infra, ou ça peut être plusieurs protocoles?
Ça peut être, en général, c'est plutôt un protocole à la fois. Maintenant, pour des notions de compatibilité, des fois, il y en a plusieurs qui peuvent coexister en même temps. L'idée étant toujours de faire passer les messages de contrôle, quel que soit le protocole utilisé.
Et en gros, les messages de contrôle, c'est quoi? C'est dire au switch, qu'est-ce qu'on lui dit au switch en gros?
On lui dit, par exemple, prends telle action quand tu vois un paquet de tel type qui arrive, et donc cette action, c'est rerouter vers le switch suivant, bloquer le trafic ou voir donc inspecter avant de prendre une décision supplémentaire. Et donc après, le SDN contrôleur lui-même est amené à communiquer avec tout un tas d'applications tierces pour bien sûr permettre la programmation du réseau. Et en général, ça se fait au travers d'une API, c'est ce qu'on appelle un Northbound Interface. Donc par exemple, on va retrouver dans un monde OpenStack, très souvent c'est lié à un plugin Neutron.
Ouais, alors cette nouvelle couche d'abstraction, est-ce que c'est pas quelque chose qui apporte des risques nouveaux et supplémentaires en sécurité ou un nouveau point de plantage?
Ah si, enfin il y a plein de nouveaux points associés aujourd'hui autour de la sécurité de SDN, en particulier tout un tas de nouveaux risques. Bah déjà, c'est un modèle SDN par essence, on dit programmer les réseaux, ça veut dire il y a tout un tas d'applications qui vont programmer le réseau. Donc, si je caricature historiquement un réseau, vous configuriez bien vos protocoles, vous mettiez à jour votre machine et vous aviez un réseau de management qui était relativement fermé. Là, à partir du moment où on commence à exposer des API vers des applications tierces, du coup, toute la partie contrôle et management de mon réseau se retrouve exposée. Donc, quels sont les risques associés à ça? Donc, comment j'expose une API de manière sécurisée? Et puis, ben, en architecture, à partir du moment où je centralise, hein, les réseaux IP Ethernet étaient très très distribués justement pour faciliter la résilience. Si je centralise, effectivement, si ça tombe en panne, le contrôle centralisé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un arrêt de service ou autre? Donc, effectivement, on pourrait considérer que le SDN contrôleur, ça peut être un point de failure. Donc, c'est extrêmement compliqué d'ailleurs de faire de la haute disponibilité en centralisé. Et avec SDN est arrivé tout un tas de nouveaux protocoles. Donc si je prends la partie data plane, c'est pas obligatoire, mais on a vu tout un tas d'overlays débarquer. Donc des réseaux virtuels encapsulés dans des réseaux physiques comme VXLAN qui marche très bien en ce moment. Vous avez tous les parties en sens bound qui sont, on a cité OpenFlow, mais si vous regardez OpenDaylight qui est un SDN contrôleur open source aujourd'hui, il a tout un tas d'autres interfaces. BGP, I2RS, Netconf, XMPP, OVSDB, donc c'est tout un tas de nouvelles interfaces qui sont en fonction des implémentations plus ou moins bien implémentées. Et puis toute la partie Northbound, je parlais d'API, mais il n'y a pas que des API. Est-ce que derrière, comment je contrôle l'accès à une API, comment je la publie, tout ça, c'est des vraies nouvelles problématiques qui débarquent dans le monde du réseau, alors qu'ils sont pas forcément si nouvelles que ça pour les gens qui sont dans le monde du software, mais clairement côté réseau, il y a un sacré gap.
Mais il y a des exemples de problèmes de sécurité, enfin d'attaques carrément. Il y a des CVE qui ont déjà été assignés à tout ça ou ça reste très théorique?
Alors,
en fait, la première question, je dirais, c'est est-ce qu'il y a des gens qui utilisent vraiment SDN ou est-ce que c'est quelques expérimentations faites avec des vendeurs
Si on regardait il y a 2-3 ans, effectivement, c'était surtout de l'expérimentation ou des tests dans les universités. Maintenant, je dirais, les produits principaux sur le marché sont arrivés depuis 2 ans. On a tout un tas d'acteurs venant du monde du cloud, d'acteurs comme les opérateurs télécoms, même des entreprises qui aujourd'hui ont fait les premiers déploiements SDN. Je dirais pas encore qu'on est sur une généralisation complète de la technologie, mais maintenant on commence à avoir quand même pas mal de recul en production. Et effectivement, des attaques, on a commencé à en voir. Je dirais, il y a un certain nombre d'attaques théoriques, en particulier autour d'OpenFlow, qui ont été énormément étudiées, puisque OpenFlow, c'était vraiment le protocole phare qui était présenté au travers d'SDN. Et derrière, on a trouvé tout un tas de choses, hein, comme pour OpenFlow, comment depuis un data plane impacter un control plane parce qu'il a des mécanismes très particuliers, ou même, je dirais, au niveau des implémentations relativement mal faites, qui des switches ou saturation avaient des comportements relativement bizarres.
Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple d'attaque?
On va prendre quelque chose qui est assez classique et connu dans OpenFlow. Donc OpenFlow a un message qui s'appelle packet in, qui est donc un message à l'initiative du switch, qui en général permet au switch d'envoyer un paquet capturé au contrôleur. Donc c'est une fonction qui est tout à fait normale, et c'est des fonctions en particulier qui permettent de construire des topologies réseau au niveau OpenFlow, voire de maintenir des groupes multicast. La problématique, c'est que renvoyer un paquet vers le contrôleur avec packet in, on peut l'avoir sur trois raisons. Donc une raison valable qui est, si je match une règle et que l'action définie est renvoyée vers le contrôleur, bien sûr ça va renvoyer vers le contrôleur. Des choses un peu plus tendues comme si je n'ai matché aucune règle, alors j'envoie le paquet vers le contrôleur pour prise de décision, voire si j'ai une erreur TTL, ça renvoie également le paquet vers le contrôleur. De suite, ben, on s'aperçoit que si jamais j'ai pris la main sur une machine dans mon réseau, je peux forger des paquets pour essayer de trouver des règles qui ne sont pas matchées au niveau de mon switch OpenFlow. Je dirais, il y a une certaine porosité au final entre le monde du data plane et le monde du control plane. Mon paquet capturé va remonter vers le contrôleur, et donc là, meilleur des cas, rien ne se passe. Moins bon, je sature le canal de contrôle et je crée un déni de service par mon contrôleur, voire vraiment très mauvais, j'abuse avec du fuzzing le contrôleur et je lui fais prendre des actions comme qui n'aurait jamais dû prendre, comme par exemple faire communiquer deux réseaux qui n'auraient jamais dû communiquer, parce que sur des cas aux limites, des fois on trouve des comportements complètement anormaux au niveau du contrôleur. Donc on se retrouve avec juste un peu de paquets forgés. Certes, c'est très visible au niveau du réseau, mais je peux bridger des réseaux qui n'étaient pas censés communiquer entre eux.
Alors, au même titre qu'il existe des firewall applicatifs web, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de firewall applicatif qui serait là pour protéger le contrôleur?
Oui, d'ailleurs, il y a pas mal d'exemples intéressants. Donc, toujours si je reste sur OpenFlow, il y a par exemple un projet qui a travaillé, qui s'appelait Avantguard, pour la protection contre une saturation du control plane, et donc éviter ces problématiques de nid de service. Puis, il y a tout un tas aussi de notions d'authentification pour permettre, je dirais, la validité de ces paquets in et éviter que ça soit trop forgé. Mais moi, j'encourage tous les gens à faire ce type d'exercice sur des contrôleurs SDN à base d'OpenFlow, parce que en général, malheureusement, ça marche trop bien.
Enfin, personne ne déploie ça en cœur de réseau, non? Si c'est des implémentations qui sont pas encore matures et des spécifications qui changent tous les ans ou tous les deux ans.
C'est tout le problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même un très fort besoin d'automatisation. Est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui sont suffisants ou pas pour nous aider dans l'évolution du business? Souvent, la réponse est non. Donc, des fois, ben, on est quand même obligé d'y aller. Et donc, il faut y aller de manière très précautionneuse. En particulier, comme toute nouvelle technologie, hein, au début, les gens, ils sortent les features. Puis après, ils s'aperçoivent que ça arrive en production. Donc, ils s'intéressent aux fonctionnalités de management. Puis après, ils se font plomber et ils commencent à s'intéresser aux sujets autour de la sécurité. Donc, des problématiques d'implémentation, nous, on en a vu quand même pas mal, hein, que ça aille de des API qui avaient absolument aucun contrôle d'accès, au SDN contrôleur qui tourne avec tous ses processus en route sur du Linux, voire les canaux de communication au niveau source band qui étaient pas du tout sécurisés, ou voire sécurisés avec de l'authentification et des mots de passe en dur dans du code qu'on pouvait pas changer. Donc tout ça, c'est effectivement, on voit bien que SDN est encore relativement jeune et très clairement amené à s'améliorer autour de la sécurité dans les prochaines années.
Et de ce que vous avez pu tester, qu'est-ce qui est le plus fiable actuellement dans ce genre de technologie, techno propriétaire ou techno open source?
Les deux ont leurs défauts et leurs avantages. Hein. La problématique du propriétaire, c'est on teste, mais des fois on peut pas aller aussi loin que l'on veut dans les tests. Très clairement aujourd'hui. des propriétaires, il y en a qui marchent très très bien sur le marché. Si on parle un peu d'open source, je dirais celui qui est le plus connu, c'est OpenDaylight, où vous avez à peu près tous les gros acteurs du marché qui sont présents autour d'OpenDaylight et qui essayent de standardiser un certain nombre de choses. Derrière OpenDaylight maintenant commence à avoir quelques années derrière lui, donc on a vu beaucoup d'améliorations sur le sujet et voir tout un tas de projets pour combler les problématiques liées à la sécurité qui se sont créées autour au niveau de la communauté open source. Parce que très clairement aujourd'hui, si vous prenez OpenFlow a plein de problématiques. Des problématiques de spoofing, des problématiques de data plane qui impactent le control plane, des problématiques d'implémentation au niveau des switches. Et donc là, il y a tout un tas de projets qui essayent de combler ces failles-là.
C'est quoi l'état de l'art de la sécurité là ? Parce que j'ai souvenir d'avoir assisté à une présentation à STIC sur le sujet. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche non, dans le domaine de la sécurité des SDN.
Alors, il y en a pas mal. Après, c'est effectivement, si on regarde les conférences sécurité, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais j'aurais tendance à dire c'est malheureusement un peu le problème du réseau. On voit pas souvent dans les conférences sécurité, à part le mobile qui fait beaucoup parler lui ces dernières années, on voit assez peu tout un tas d'états de l'art ou même comment protéger le réseau. Hein. Donc, moi, j'ai vu des conférences autour de BGP, mais maintenant, BGP, ça fait quelques années que ça existe. SDN, c'est vrai. Alors, à la Black Hat, il y a eu aussi une conf autour de SDN, mais c'est un cas d'usage un peu limite puisque c'était plutôt les switches virtualisés. En fait, c'est plutôt les switches whitebox sur lesquels j'installe mon propre operating system réseau. Donc, ça, c'est un cas... qui est un peu limite, on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est vraiment du SDN ou pas du SDN. Maintenant, il y a tout un tas de papers qui sont trouvables, qui sont très théoriques. Il y a quand même des projets qui essayent, comme projet Genome, qui essayent de catégoriser l'ensemble des vulnérabilités autour d'SDN et de les classifier et voir comment améliorer les choses. Et j'ai même vu également les premiers frameworks de pentest, par exemple un qui s'appelle Poséidon, qui est en train d'arriver avec plus d'une vingtaine d'attaques d'implémenter et aussi des fonctionnalités de fuzzing. Donc on voit que c'est en train d'arriver, mais c'est encore très jeune.
Mais est-ce que ce que propose le SDN n'est pas ce que tout opérateur aurait dû développer pour lui-même comme quelque chose qui crée de la valeur et qui fait sa différence sur le marché. C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre qu'on attende des produits sur étagère de la part des constructeurs de boîtiers, alors que très clairement, on est dans le savoir-faire de l'opérateur et bien plus que celui du fabricant de boîtiers. Donc moi, j'aurais pris le problème à l'envers et je me serais dit que c'est l'opérateur qui va développer son système de SDN.
Bah, l'opérateur, oui, pourquoi pas. En même temps, c'est des choses très orientées autour, au final, du monde du software. Est-ce que c'est le rôle de l'opérateur, au final, de développer toutes ces choses-là ? Est-ce que c'est son métier ? Est-ce qu'il a les développeurs pour développer de manière sécurisée toute cette partie-là ? Mais si tu regardes aujourd'hui les projets open source autour d'SDN, tu as aussi bien des gros acteurs du réseau comme des Cisco, John Hipper, Ixon, que comme des opérateurs AT&T, NTT, Orange, Deutsche Telekom, voire même des opérateurs IT qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le monde du réseau, des HP ou autres. Donc c'est vraiment la rencontre de différents mondes. Hein. Les gens qui ont l'habitude de travailler avec du monde du software, les gens qui ont l'habitude de travailler dans le monde du réseau, tout ça pour essayer d'améliorer la partie automatisation.
Dassault Systèmes s'appelle Dassault Systèmes hein, parce qu'à l'origine, c'est pour faire des avions qu'ils ont développé un logiciel qui aidait à faire des avions. Bon, on peut trouver des exemples dans l'industrie ou la banque où le développement de logiciels est partie intégrante du cœur du métier et de la compétitivité de l'entreprise. Donc, c'est pas incohérent de faire du logiciel indépendamment de ce qui est son métier.
C'est pas incohérent, cela dit, quand on veut essayer de mettre autour de la table différents acteurs et que je dois, moi, contrôler en tant qu'opérateur tout un tas d'équipements venant de constructeurs différents, à un moment ou un autre, je ne peux malheureusement pas travailler tout seul. Il y a aussi, je dirais un peu comme dans les différents standards dans le monde du réseau, il faut qu'on se mette d'accord à plusieurs pour essayer d'aller dans le bon sens.
Mais bien entendu, encore faut-il participer à la normalisation. Si on laisse que Cisco, Juniper, Huawei et consorts, c'est eux qui feront les choses entre eux. Mais ils sont déjà dans les tas de groupes de normalisation, donc ça me semble pas infaisable. Enfin bon, je voulais revenir à la sécurité. Est-ce que avec le SDN, on configure aussi, je sais pas moi, le routage, le filtrage, des choses comme ça?
Le routage, oui, parce qu'on peut assimiler ça tout à fait à des fonctions de contrôle. Le filtrage, là, ça devient un peu plus compliqué. On est déjà plus à des cadres d'usage un peu à la marge. On va plutôt configurer, une chaîne de liaison par laquelle tu vas dire je passe par mon routeur, puis mon firewall, puis mon proxy, puis mon IDS ou autre. Et donc là, effectivement, on est tout à fait dans le rôle du SDN contrôleur, c'est ce qu'on appelle le service chaining, donc créer une chaîne de bout en bout, aller configurer un firewall, là on est plutôt sur des fonctionnalités de management, et le SDN est quand même beaucoup moins sur cette thématique-là. Si vous prenez, comme je disais, le modèle de l'Open Network Foundation, la partie management est vue comme plus ou moins externalisée à SDN, et en tout cas, c'est pas du rôle du SDN contrôleur. Si vous prenez le modèle de l'ITU, c'est également plutôt externalisé, c'est pas le rôle du SDN contrôleur. Donc la partie management est toujours un peu limite quand on veut parler de SDN.
Et qu'est-ce que globalement va apporter SDN en matière de sécurité ?
Alors déjà, quand on dit automatisation, on essaye souvent de nous vendre, c'est la fin des erreurs humaines. Moi, j'aurais tendance à dire une erreur humaine avec un script, en général, elle fait beaucoup plus mal et de manière beaucoup plus large avec de l'automatisation. Donc, je suis pas certain que ça soit vraiment la fin des erreurs humaines. Par contre, très clairement, à partir du moment où j'ai une vue d'ensemble sur mon réseau, que j'ai une vue d'ensemble sur un service, que je peux créer une architecture de bout en bout de manière automatisée, ça ouvre quand même tout un tas de nouvelles possibilités côté sécurité. Donc on parlait juste avant de service chaining, je peux adapter complètement la sécurité aux besoins de mon application. Donc mon application, elle peut je peux lui fournir un portail et elle dessine elle-même son architecture, et moi dans le réseau j'insère les bons composants nécessaire à sa protection d'un point de vue réseau. Je peux me mettre dans un rôle d'opérateur ou de vendeur de services, et pour n'importe quel client, sans forcément me déplacer chez lui et rajouter des boîtes, juste en reroutant des flux et en les faisant passer dans des services, être capable de vendre de la sécurité on demand derrière. Donc il y a tout un tas de nouveaux business qui sont en train d'apparaître, que ça soit pour des besoins internes, voire du service revendu. Mais j'aurais tendance à dire presque le truc le plus intéressant qu'on peut avoir aujourd'hui avec un SDN, c'est à partir du moment où j'ai un réseau programmable, c'est que je peux réagir à un événement sécurité. Donc réagir à un événement sécurité, je détecte que j'ai quelque chose de bizarre qui se passe dans mon réseau, ou je sais pas moi, mon application détecte qu'il y a un comportement bizarre dans les flux qu'elle reçoit. Moi, au niveau du réseau, je peux déplacer l'application dans un réseau de quarantaine de manière quasiment instantanée, lui rajouter un non-iPod à côté pour voir si tes suspicions elle est vérifiée ou pas. Je peux tout à fait réfléchir à j'ai un problématique de DDoS, potentiellement comme j'ai pas mis de la protection, rerouter le flux pour essayer d'aller protéger mon application, ou tout simplement à un instant T j'ai quelque chose que je détecte, je veux insérer un composant sécurité pour aller cleaner le flux, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Donc vraiment cette notion de réaction quasi automatisée et dans ce qu'on a pu tester, on parle de l'ordre de millisecondes pour insérer un équipement ou déplacer une application. Ça apporte quand même beaucoup de choses très très intéressantes à la sécurité aujourd'hui.
Mais moi, j'ai une toute petite inquiétude quand même sur les implémentations, parce que j'ai vu du code écrit par des mathématiciens et ça faisait un petit peu de la peur. Est-ce que le code, là, il est écrit par des gens du réseau ou est-ce qu'il est écrit par des gens qui ont un passif dans l'édition logicielle, on va dire?
Malheureusement, c'est les deux. C'est-à-dire que si tu demandes aux gens du réseau de coder, c'est-à-dire ils sauront bien te configurer du BGP, mais c'est pas du tout certain qu'ils sachent faire un programme sécurisé. Par contre, les gens côté plutôt programmation qui sont dans l'édition logicielle, eux, ils ont pas forcément, je dirais, un background réseau, et donc potentiellement ils peuvent prendre des actions sur des paquets qui sont peut-être pas conformes à ce que on peut attendre. Donc effectivement, aujourd'hui, tu as raison de t'inquiéter. On constate quand même pas mal d'erreurs en implémentation parce que on est obligé de faire parler des gens qui historiquement ne parlaient pas forcément entre eux, et en tout cas d'un point de vue évolution des compétences, ben les gens du réseau vont de plus en plus vers le monde du software et les gens du software de plus en plus vers le monde du réseau. Donc là, on est au croisement de différents mondes pour le meilleur et pour le pire.
Oui. En fait, dans l'édition logicielle, ça fait longtemps qu'on a de la gestion de révision, enfin du source control, des trucs comme ça. C'est arrivé dans le monde du SysOps avec des trucs comme Docker ou autre, où tu peux faire un snapshot de ton système, changer une ligne de config et revenir en arrière si ça n'a pas fonctionné. Est-ce que en matière de SDN, c'est le cas aussi, ou est-ce que si tu pousses la mauvaise config, t'as plus qu'à repartir de la feuille Excel avec toutes les règles?
Ben, c'est compliqué de répondre. Si on regarde un peu aujourd'hui, moi je regarde plutôt dans le monde du métier opérateur. Si je discute avec d'autres sociétés aujourd'hui, le monde du DevOps, avoir un processus de continuous integration ou autre, c'est tout juste en train d'arriver. C'est vraiment les débuts. Donc là, il y a tout à apprendre. Maintenant, effectivement, les gens, ils ont quand même aujourd'hui une très bonne capacité à opérer des réseaux, quelles que soient d'ailleurs les sociétés. On n'est pas non plus totalement stupide, on backup avant, on fait des tests avant de balancer des scripts directement en production. Donc il y a tout un tas de moyens de contrôle en amont pour éviter les grosses catastrophes, mais je dirais c'est pas encore des processus aussi agiles que ce qu'on peut les connaître dans le développement du software.
Et qu'est-ce que va nous apporter SDN à l'avenir? Enfin, quels sont les axes de recherche en matière de sécurité, bien sûr?
Alors, il y en a beaucoup, et justement, c'est assez foisonnant, donc c'est toujours un peu compliqué de voir entre les axes de recherche, qu'est-ce qui va arriver et à quelle échéance. Donc, moi, dans les choses que j'ai pu voir qui étaient très, très intéressantes, c'est à partir du moment où je sais automatiser, du coup, ça veut dire je sais faire évoluer un réseau, et donc il y a des axes de recherche où, de la même manière que les malwares font du polymorphisme pour essayer, je dirais, d'éviter de se faire détecter, on peut essayer d'appliquer le polymorphisme à la défense, et donc, en gros, essayer de se protéger contre les gens qui vont scanner, essayer de découvrir votre réseau, et donc leur compliquer énormément la tâche pour une préparation d'une attaque ou pendant l'attaque. J'ai vu tout un tas de recherches également sur des notions de, avec une vue globale au niveau du réseau, détecter des éléments compromis, en particulier des switches. La grosse problématique qu'on a aujourd'hui, si un switch est compromis, potentiellement tous les événements et tous les messages que vous recevez de lui ne sont pas valides, donc on peut passer à côté de tout un tas de choses. Et donc là, avec une vue globale au niveau du réseau, les équipements peuvent se truster mutuellement et en gros valider si l'un d'entre eux au milieu est en train de cacher des événements ou avoir une activité qui est anormale. Donc ça, c'est tout un tas de recherches autour de ce qu'on appelle network provenance. Et j'ai également vu des choses très très intéressantes au niveau du self-healing. Alors bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui vont nous répondre que le réseau il sait se reconfigurer tout seul. C'est quand même rarement le cas, mais on On voit qu'avec SDN, vu que je ne discute pas forcément que réseau, mais je peux avoir une vue service, voire une architecture complète, je peux la reconstruire en quelques instants et en réappliquant exactement les mêmes policies à côté, from scratch. Et si la première, elle est tombée ou elle est compromise, je peux la refaire ailleurs. Donc, tout un tas de choses au niveau de la résilience, de la visibilité, voire d'une amélioration de la protection qui sont en train d'arriver et qui sont extrêmement intéressants.
Oui, enfin, on peut dupliquer la politique à condition que ce soit pas la politique elle-même qui a été victime de l'intrusion et de la malversation.
Ah, tout à fait. Après, c'est toujours pareil. Hein. Un outil remplacera jamais, je dirais, une politique bien montée. Un outil ne protégera jamais contre tout. Donc, SDN ne protégera pas demain contre toutes les attaques. Par contre, ça amène quand même des choses extrêmement intéressantes qu'on ne sait pas faire aujourd'hui au niveau du réseau.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? D'autres questions ?
Oui, je crois que le SDN, c'est mort, non ? Maintenant, tout le monde parle de NFV, si j'ai bien compris.
Alors, effectivement, dans les grandes tendances d'évolution du réseau, SDN et NFV sont assez souvent mis ensemble. Donc non, SDN n'est pas mort, puisque le SDN aborde plutôt le sujet de l'automatisation, alors que NFV, lui, aborde plutôt le sujet de la virtualisation du monde du réseau. C'est pas l'un qui inclut dans l'autre, c'est plutôt, je dirais, deux tendances différentes et complémentaires, puisque, bien sûr, aujourd'hui, tout est en train d'être softwareisé. Donc, virtualiser une fonction réseau permet de gagner pas mal d'agilité, et c'est pas du tout contradictoire avec les sujets d'automatisation.
Est-ce qu'on a bien précisé ce que voulait dire l'acronyme SDN ?
Oui.
Mais pas NFV, par contre.
Mais pas NFV.
Parce que ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode.
Si vous voulez, avec plaisir.
Mais avant, qu'est-ce que ça veut dire NFV, alors ?
Network Function Virtualization. Donc, comme son nom l'indique, on parle de virtualisation des fonctions réseau.
Bon, et bien, Sylvain, un grand merci d'avoir participé à cet épisode.
Mais de rien, et puis peut-être à bientôt pour le NFV.
Voilà, à bientôt pour le NFV. On espère que cet épisode vous aura intéressé, et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Salut. Au revoir.